Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à Brazzaville, bienvenue à notre journal. On commence par la République démocratique du Congo. Un cas supplémentaire de fièvre Ebola a été enregistré dans le pays où les vaccins vont arriver mercredi ou jeudi, a annoncé dimanche le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Plus de détails avec Jean-Roger Bion.
Il y a un cas suspect à Bikoro, près de la République du Congo, a indiqué le directeur de l'OMS, qui s'est rendu sur place lors d'une visite de 2 jours en RDC, ce qui porte le bilan à 35 cas, dont 2 confirmés. Il a par ailleurs précisé qu'il y avait des cas suspects à Mbandaka, la capitale provinciale de l'Équateur. Les vaccins vont arriver mercredi ou jeudi. Nous en avons assez, a-t-il ajouté, sans préciser le nombre de doses qui seront distribuées. Au terme d'une rencontre avec le président Joseph Kabila, il a salué le très fort leadership du gouvernement dans la réponse à Ebola et la bonne coordination avec ses partenaires, notamment MSF et l'UNICEF. Vendredi, l'OMS avait dit se préparer au pire des scénarios.
RDC toujours, dénouement heureux dimanche de la prise en otage de 2 touristes britanniques et de leur chauffeur congolais dans le parc de Virunga, dans l'est du pays, à la frontière de l'Ouganda. C'est ce qu'a annoncé le ministère britannique des Affaires étrangères et aussi les responsables du parc. Le véhicule des 3 captifs avait été attaqué vendredi dernier par des hommes armés non identifiés qui ont tué lors de l'enlèvement Rachel Makissa Baraka, une garde congolaise du parc. Au Congo-Brazzaville voisin, la cour criminelle de la capitale a condamné le général Jean-Marie Michel Mokoko à une lourde peine la semaine dernière à l'issue d'un procès qui a duré en tout et pour tout 5 jours. À Pointe-Noire, ville acquise au général Mokoko lors des présidentielles de 2016, les populations ne ménagent pas leurs critiques contre la justice congolaise. Quand on voit comment les choses se déroulent, c'est comme du cinéma, disent-elles. Franck Loufo-Abessi, secrétaire général de la Rencontre pour la paix et les droits de l'homme, ONG basée à Pointe-Noire, estime que le procès Mokoko a causé la détérioration du climat de paix dans la ville pétrolière.
En tout cas, nous déplorons une dramatisation de la situation, y compris par les autorités et par les services de sécurité. Et on ne s'explique pas cela. Alors qu'il s'agit d'un procès, d'un individu, il y en aura d'autres. Mais à quoi est due cette dramatisation? On ne comprend pas. On note des arrestations, etc. Mais je pense que plutôt que de promouvoir un climat de terreur, il revenait aux autorités qui sont les nôtres d'apaiser la situation.
Franck Loufo-Abessi, secrétaire général de la Rencontre pour la paix et les droits de l'homme à Pointe-Noire, au Congo, Brazzaville. Afrique de l'Ouest maintenant, corruption au Nigeria, le procès des compagnies pétrolières Eni et Shell soupçonnées de corruption lors de l'attribution d'un contrat pour un bloc pétrolier offshore au large du Nigeria a été renvoyé au 20 juin par le tribunal de Milan dans le nord de l'Italie. La Cour italienne de cassation doit se prononcer le 12 juin sur un recours déposé par Shell au sujet de la régularité d'une décision concernant les prévenus du groupe. Et le président de la Chambre a estimé judicieux d'attendre l'arrêt de la Cour pour lancer le procès. Celui-ci devait initialement débuter le 5 mars, mais il avait été reporté à ce lundi en le transférant à une autre section pénale moins surchargée. L'audience du 20 juin sera consacrée à la constitution des partis civils. En Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien, le FPI, demande la mise en place d'une nouvelle commission électorale en vue de la présidentielle de 2020. Le président de l'une des factions du parti de l'ancien président Laurent Gbagbo s'est exprimé ce week-end lors de la célébration de sa traditionnelle fête de la liberté. On écoute Pascal Afi Nguessan.
Pour nous, c'est une question essentielle. Un pays comme la Côte d'Ivoire, qui compte près de 26 millions d'habitants, ne peut pas se contenter d'une liste électorale de 6 millions d'électeurs. Il nous faut une liste électorale d'au moins 9 millions, 10 millions. Nous ne pouvons pas tolérer des recensements, des révisions qui sont faites à la va-vite de façon cosmétique, juste pour dire qu'on a fait un recensement, alors qu'en réalité, le corps électoral ne reflète pas la réalité politique du pays.
Pascal Afi Nguessan, leader d'une des factions du FPI, le Front populaire ivoirien de l'ex-président Laurent Gbagbo.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Mali, deux poids lourds de l'opposition malienne, l'ancien Premier ministre Modibo Sidibé et l'ancien président de la commission de l'UMOA, Soumaïla Cissé, ont été respectivement investis par les partis politiques FAR et URD comme candidats à l'élection présidentielle, dont le premier tour est prévu le 29 juillet 2018. Le point avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Le soleil ardent, avec sa chaleur, ont laissé place à un ciel assombri par des nuages. C'est sous ces temps cléments que certains Bamakois ont pris d'assaut le stade du 26 mars et ses 60 000 places. Ambiance de carnaval à la satisfaction des organisateurs. Thieblin Dramé, membre de l'alternance pour le changement.
Le peuple malien vient de vivre un jour important, une étape importante vers l'alternance. Cette mobilisation est une étape décisive. Je crois que les fondations du régime Ibeka tremble aujourd'hui. Il est temps donc que le président en tire les conséquences. Le peuple aspire au changement, le peuple aspire à l'alternance, donc je crois que le président va en tirer les leçons.
C'est dans une voiture décapotable que Soumaïla Cissé, tout de blanc vêtu, a fait le tour du stade du 26 mars, puis salué ses invités d'honneur, parmi lesquels l'opposant Selou d'Alain Diallo.
Sachez que c'est le début du changement. Sachez que nous avons pris un chemin qui est irréversible. Sachez qu'on ne peut plus reculer. Sachez que la victoire, elle est certaine. Personne ne peut en douter, parce que votre spontanéité suffit ici pour montrer que nous sommes sur la bonne voie. Encore du courage, soyons vigilants. Pas de tricherie, pas de fraude comme en 2013, pas de yurku yurku comme en 2013, pas de nyagami nyagami comme en 2013. Nous n'accepterons plus cela.
Face à la grande mobilisation du jour, les partisans et alliés candidats de l'URD étaient aux anges. Djibril Tall, président du parti PDS.
Je pense que la cérémonie passe de commentaires. Vous avez pu vivre l'ambiance. Je pense que nous sommes à l'aube d'un changement dans le cadre de la coalition pour l'alternance. Il fera un quinquennat pour la réforme et pour la régénération de la couche du genre de gestion du pays. Nous allons, d'une manière très utile, nous y mettre à aller. Nous estimons que dans un futur très proche, la nouvelle jeunesse montante sera à la commande du pays.
Hier, l'ancien Premier ministre Modibo Sidibé, président des FAR en Kaouli, a été investi candidat à la présidentielle par le nouveau pôle politique NPP.
Je lui ai enlevé d'autres pour son peuple que la paix, l'autosuffisance alimentaire, le progrès, des dimensions qui pourront permettre aux Maliennes et aux Maliens de vivre mieux, de vivre dignes et de vivre heureux afin de permettre à leurs petits d'être les braves soldats du développement et les bâtisseurs d'un Mali nouveau.
Notre motivation tire son essence de la stratégie proposée par M. Modibo Sidibé. Elle repose sur les valeurs fondamentales qui sont la liberté, la justice, le travail et la solidarité, traduisant notre appartenance à la société des travailleurs.
Modibo Sidibé, dont le projet de société est Mali Horizon 2030, est soutenu par des milliers de jeunes leaders d'associations.
Le choix de la personnalité qui présidera prochainement au destiné du peuple malien revêt une importance cruciale, car il ne s'agira ni plus ni moins que de choisir entre le redressement du pays et son affaissement, de refondation d'un État malien crédible aux institutions républicaines fortes et adaptées aux défis en cours et dont la sécurité est assurée sur toute l'étendue du territoire national.
D'autres investisseurs auront lieu certainement, mais ça sera après le mois de Ramadan, une période pendant laquelle le marigot politique devient calme au Mali. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Proche-Orient maintenant, les États-Unis inaugurent aujourd'hui leur ambassade à Jérusalem, un événement coïncidant avec le 70e anniversaire de la création de l'État hébreu en 1948. Des milliers de Palestiniens manifestent ce lundi contre le transfert de l'ambassade dans la ville sainte, notamment à la frontière entre la bande de Gaza et l'État hébreu. Ces protestations auraient fait 25 morts et plus de 500 blessés côté palestinien selon le ministère de la Santé de la bande de Gaza. Des manifestants atteints par des tirs israéliens. Plus de détails sur l'inauguration de l'ambassade américaine avec Nathalie Barge.
Le secrétaire d'État américain et le conseiller de Donald Trump à la sécurité nationale ont estimé dimanche qu'un accord de paix israélo-palestinien était possible après le transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Le processus de paix n'est certainement pas mort, a déclaré Mike Pompeo lors d'un entretien à la chaîne Fox. Nous y travaillons dur, a-t-il assuré. Pour le conseiller à la sécurité nationale John Bolton, loin de saper le processus de paix, ce déménagement le rend plus facile, a-t-il fait valoir lors d'un entretien à la chaîne ABC. Reconnaître une réalité améliore toujours la probabilité de parvenir à la paix, a-t-il estimé. Pour l'envoyé palestinien aux États-Unis, Hussam Zomlot, le gouvernement américain a abandonné de lui-même le rôle de conciliateur en choisissant de déménager son ambassade.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.